Tout pour investir, le déchiffrage.
Ils sont venus, ils sont en plateau, ils ont bravé la grève. Enfin, globalement, ça roule bien dans Paris, il n'y a pas grand monde. Donc voilà. Mark Templeman de CashBee, merci d'être avec nous.
Bonjour Antoine.
Olivier Le Chevalier de DeftEdge.
Bonjour.
Bonjour. On le disait, décision de la Fed, très anticipée. On est sur une baisse de 25 points de base des Fed Funds. Mais, facteur important, on avait Donald Trump bon, qui secouait le cocotier pour obtenir ce qu'on appelle une jumbo cut, une grosse baisse des taux d'un coup pour fortifier l'économie. On a un Jerome Powell qui baisse de 25 points de base, donc globalement ce qui était anticipé par le marché, mais qui en plus alors entre-ouvre la porte à une sorte de correction progressive, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir deux nouvelles baisses avant la fin de l'année, mais surtout il dit on va rester sur le processus d'assainissement du bilan de la Fed. Ça veut dire ouais, on est sur la bonne pente, mais hors de question d'emballer la machine pour autant. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, Olivier Le Chevalier ?
Oui, tout à fait. Ben, en fait, ce qui est noté, là, il fallait baisser quelques points sur cette partie taux d'intérêt, parce qu'en fait, 77% des banques ont déjà en fait cet assouplissement. Donc la Fed, on voit bien, elle poursuit aussi sa baisse des taux, mais de manière un peu plus lente. Du coup, ce qui fait que ça bénéficie quand même à son économie américaine. Et du coup, là, ce qu'il faut scruter aussi, c'est le marché de l'emploi derrière tout ça. Donc, en fait, on a vu qu'il y avait eu des chiffres qui avaient été corrigés de manière ultra rapide.
C'est un peu le bazar là-dessus.
Exactement. Donc, on pourrait dire, ah, attention, est-ce qu'ils ont menti, etc. Est-ce qu'on a caché des choses ? Mais en fait, non. Donc, du coup, ils se battent aussi contre l'inflation. Ils se battent aussi pour leur pouvoir d'achat et cette continuité. Donc, effectivement, ils y vont d'une manière plus lente, mais ils y vont avec retard par rapport à 77 autres banques. Et du coup, ils continuent en fait de baisser. Pour aller chercher de la confiance, évidemment. Et donc, du coup, forcément, ce qui a un bénéfice potentiel pour tout le marché des actions, de la dette et de l'emprunt.
Mark Templeman, on est sur du largement anticipé ou vous sentez quelques inflexions intéressantes sur le discours de Jerome Powell par rapport aux pressions politiques, justement ?
Non, je pense qu'on est sur du largement anticipé et tant mieux, je dirais.
Ouais.
Une banque centrale qui surprend le marché, 9 fois sur 10, c'est pas très bon.
Ouais.
Et là, au-delà du fait que le 0,25 était très anticipé, ce qui est rassurant, c'est que 11 sur 12 membres votants qui ont pris la décision ont voté dans le même sens. Et donc, comme vous le disiez, non seulement il y a de la clarté sur la décision qui a été prise, mais aussi sur la trajectoire à venir qui va probablement contenir deux coupes supplémentaires de 0,25 d'ici la fin de l'année.
Et si j'ai bonne mémoire, le seul vote contre, c'est celui du gouverneur, bon, qui vient d'arriver, qui est soutenu par Trump, mais qui, lui, s'est abstenu, enfin, a voté contre.
Exactement.
Non pas parce qu'il voulait une hausse des taux ou un maintien, mais parce qu'il voulait une coupe beaucoup plus franche.
Il voulait aller plus loin, mais il faut pas oublier que la Fed se trouve entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les révisions sur l'emploi qui prouvent que l'économie pourrait ralentir et son rôle aussi, c'est de maintenir cette croissance. Mais de l'autre, des prévisions sur l'inflation qui sont clairement à la hausse. Entre autres, pour cause des droits de douane. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, il est parfaitement naturel que la Fed y aille à tâtons et donc rassure aussi le marché par le fait que tout ça, c'est largement communiqué, largement signalé et donc plutôt clair et prévisible.
Olivier Le Chevalier, il y a un aspect, on parle des pressions politiques et d'un Donald Trump ultra-interventionniste sur les histoires économiques, alors peut-être des fois avec un bazooka et avec pas beaucoup de finesse, mais enfin, il a quand même fait une déclaration qui a été très commentée, très regardée il y a quelques jours. Il en a marre de la dictature des résultats trimestriels d'entreprise.
Oui.
En disant, voilà, peut-être que deux fois par an, ça suffit. Disons aussi, la Chine, elle voit à 40 ans, nous on s'arrête à chaque fois au trimestriel. Bon, la Chine, accessoirement, les entreprises, je crois de mémoire, quand elles sont cotées, elles publient tous les trimestres, hein, c'est pas un problème. Mais enfin, il y a une observation là-dessus qui va dans le sens d'une volonté, encore une fois, de déréguler l'économie.
Alors, je ne sais pas s'il est dans la volonté totalement de déréguler l'économie, parce que, en tout cas, c'est la SEC qui va trancher sur cette partie-là. Mais comme je pense que c'est un entrepreneur aussi dans l'âme, je trouvais ça intéressant, en tout cas, de le souligner aujourd'hui par rapport, comme vous faites l'activité des actions et tout le suivi, de dire, ben voilà, il veut repousser au semestre, en fait, le suivi, la publication, en fait, des comptes. Pourquoi ? Pour laisser un peu plus de temps aux entreprises d'avoir un temps un peu plus long, en fait, de pouvoir dire, j'ai mené des actions et donc ça s'est réalisé, parce qu'au trimestre, vous avez du mal à avoir des résultats peut-être qui peuvent être probants quand il faut les montrer à vos actionnaires dans l'immédiat. Et après, ce qui était Bon, bah, le contrepoids aussi, c'est on va dire, on va manquer de transparence. Est-ce que c'est pas un temps trop long pour l'actionnaire? Donc je pense qu'il y a débat là sur cette partie. Mais s'il arrive à passer au semestre, je pense que l'Europe pourra suivre aussi, parce que sinon ça va freiner les introductions en bourse européenne. Et je trouve que ça laisse un peu plus de temps et de marge de manœuvre aussi aux entreprises pour se mettre en œuvre, surtout vu qu'aujourd'hui il y a pas mal de volatilité et les mouvements qui bougent régulièrement.
Mark Templeman, bonne ou mauvaise chose? Parce que ça a tendance à, quand la plus grosse économie du monde commence à changer les paradigmes, bon, on se dit, est-ce que le monde va suivre? Est-ce que ça ne va pas provoquer, encore une fois, un bazar insensé au milieu de ceux qui publient plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis là-dessus?
D'abord, la publication de résultats trimestriels est une spécificité largement américaine. Il y a énormément de pays dans le monde où la bourse ne demande que, entre guillemets, des publications semestrielles pour les raisons évoquées qui sont que, en trois mois, qu'est-ce qu'on peut véritablement changer à la direction stratégique d'une grosse entreprise cotée? L'argument inverse, qui est très sensible et qui pèse lourd aux US, c'est que les investisseurs là-bas sont très friands d'informations et de transparence. Et que la loi américaine impose dans la publication de ses résultats trimestriels, non pas nécessairement que de publier des chiffres, mais aussi de devoir dévoiler, en tant que dirigeant, les choses qui pourraient arriver, et notamment des plaintes juridiques, dont, pareil, l'économie américaine est plutôt friande. Donc, le côté transparent et le côté informatif est très apprécié par les investisseurs, et je les comprends. En revanche, il ne faut pas oublier que de se soumettre à cette obligation de publier tous les trimestres des documents épais, ça a un coût. Oui. C'est très coûteux pour la boîte, c'est très coûteux en ressources humaines.
Il faut les auditer, il faut les faire vérifier.
Exactement. Et en plus, il faut que les dirigeants, tous les trimestres, fassent un petit tour, ça s'appelle des roadshows, où ils présentent à leurs actionnaires et à des investisseurs potentiels les résultats du trimestre. Et ça peut mettre une pression qui est peut-être malsaine pour produire quelque chose de nouveau dans les trois mois. Alors que le propre d'un entrepreneur, c'est quand même d'avoir une vision stratégique, typiquement à 3-5 ans.
Oui, et puis il faut pas oublier qu'aux États-Unis, non seulement il y a des résultats, des chiffres d'affaires, mais il y a aussi des prévisions chiffrées de trimestre à trimestre. Et si on les loupe de quelques centimes sur le bénéfice par action, on n'est pas bien sur le marché action. Donc, vous pensez qu'il y a peut-être un besoin de simplification accru du côté américain et que du coup, côté européen, on pourrait s'aligner finalement sur un plus petit dénominateur commun?
Déjà, en Europe, on est très souvent déjà sur le semestriel. Ce ne sont que les très grosses entreprises européennes qui sont également cotées aux US qui doivent se soumettre à la réglementation de la SEC. Et je pense que, oui, passer à du semestriel, à la marge, c'est plutôt positif. Je pense que sur la volatilité, en revanche, autour des résultats, elle restera la même. Enfin, qu'on fasse ça tous les trimestres ou qu'on fasse ça tous les six mois, on voit bien que quand on loupe effectivement les prévisions, ne serait-ce que de quelques centimes, ça peut avoir un effet très très important sur le prix d'une action.
Alors, on va parler maintenant, parce que tout ça a évidemment un impact modéré pour le moment sur les taux et l'échange, mais intervient finalement au fur et à mesure que se développe cette dynamique monétaire aux États-Unis, une faiblesse du dollar qui commence à inquiéter du côté de la gestion. Et est-ce que finalement le risque de change en ce moment ne devient pas un vrai problème pour les gérants et les intervenants de marché? Je parle de cette faiblesse du dollar et du fait que l'euro devient vraiment très fort. On est aux portes d'un 20 désormais.
Exactement. Donc, c'est vrai que le fait là, on... Donc, du coup, déjà, il y a les taux qui ont baissé, donc ça va avoir un impact effectivement sur le marché des taux à terme, simplement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir un dollar trop faible, quand vous êtes un investisseur européen et que vous avez acheté des actions, peut-être sur des niveaux qui étaient beaucoup moindres, effectivement, vous allez perdre de l'argent. Parce qu'en fait, c'est pas forcément les actions américaines qu'il faut couvrir, mais c'est le change. C'est vraiment ce différentiel. Donc, on voit qu'aujourd'hui, sur le commitment des traders, c'est une information de marché qui est publiée tous les vendredis, on voit bien que tous ceux qui étaient sur les ETF, sur les actions américaines, sont couverts à 80%. Alors qu'auparavant, c'était pas du tout le cas. C'était inversé. On était plutôt dans 80% pas couverts et 20%. Donc là, on voit bien que le différentiel de taux d'intérêt pénalise les investisseurs européens qui veulent absolument acheter des actions américaines. Donc là, on voit bien qu'il y a ce différentiel. Donc pour une entreprise, c'est simple, elle va passer par sa banque et se couvrir. En revanche, quand vous êtes un investisseur lambda, du coup, la difficulté pour se couvrir C'est pas la même.
Mark Templeman, ça va être une problématique qui va s'inscrire vraiment dans le temps, ça.
Alors, d'abord, c'est une problématique qui a toujours existé, mais qu'on peut contourner. Mais je pense que c'est un très bon sujet à aborder dans la mesure où relativement peu d'investisseurs saisissent cette opportunité. Je vais vous donner un chiffre qui est très parlant. Depuis le début de l'année, la S&P 500 est en hausse de 12%. Or, pour l'investisseur européen qui aurait mis une somme en euros pour acheter cet indice en début d'année, lui, il n'a pas un gain potentiel de 12%, il est assis sur une perte potentielle de moins 2%. Tout ça à cause de l'effet de change. Et donc, comme Olivier l'a très bien expliqué, en fait, vous vous retrouvez dans la situation où, on souhaite investir dans le marché action américain parce que on estime qu'il y a un potentiel de hausse, d'ailleurs qui s'est vérifié depuis le début de l'année. Encore une fois, l'indice est en hausse de 12%. Mais il faut pas oublier qu'il y a ce risque de change qu'on prend automatiquement lorsqu'on achète des actions libellées en dollars. La réponse à cela, c'est qu'il existe des fonds, des ETF, qui sont hedgés. Et par le terme hedgé, on explique tout simplement où le risque de change a été éliminé. Alors, ça se fait pas à zéro coût, mais pour les personnes qui ont eu la bonne idée début d'année d'investir dans le marché américain en prenant un ETF ou un fonds hedgé, eux, ils voient véritablement cette hausse depuis le début de l'année, contrairement à leurs pairs qui ont simplement investi dans des actions américaines sèches, qui elles ont une valorisation à date à cause de l'effet de change qui est négative.
Alors, Olivier Le Chevalier, il y a un chiffre aussi qui retient notre attention depuis quelques semaines. Et qui est vraiment très significatif, c'est le fait qu'il y ait plus d'ETF que d'actions cotées aux États-Unis. Est-ce que on assiste à un rebalancement finalement des préférences des investisseurs?
Alors là, je préfère être très transparent, mais laisser la parole à Marc sur cette partie des ETF, parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait ce rebalancement, parce que l'ETF est peut-être plus sécurisé, plus sécurisant pour l'investisseur, et donc effectivement, ils vont prendre ça parce que vous pouvez prendre des parts sur le marché. Mais effectivement, comme disait Marc, de prendre des actions sèches américaines, effectivement, vous allez vous mettre davantage en risque. Et du coup, je pense que c'est un outil qui est beaucoup plus facile et plus flexible pour pouvoir aussi acheter des actifs et pouvoir diversifier son portefeuille d'investissement.
Mais Mark Templeman, est-ce que finalement, on ne va pas vers une sorte de complexification en fait de la tâche de gérer entre les actions qui présentent des opportunités, les couvertures de change et l'exposition aux produits de type ETF qui ne font que traquer la tendance.
Le fait de noter qu'il y a plus d'ETF que d'actions individuelles côté bourse,
chiffre fort.
C'est un fun fact, mais quelque part c'est pas en soi très dangereux. Hein. On peut tout à fait dire en termes de cuisine qu'il y a beaucoup plus de recettes qu'il y a d'ingrédients. Maintenant, l'ETF a été inventé il y a maintenant des dizaines d'années pour simplifier la vie de l'investisseur. On me disait plutôt que de chercher à battre le marché, voilà un instrument qui ne fait que suivre un indice. Mais si tu veux une exposition au marché américain, achète l'ETF S&P 500. Si tu veux une exposition mondiale aux actions, achète un ETF MSCI World, et ainsi de suite. Comme ce marché a décollé et comme l'investissement passif est devenu un marché qui croît à une vitesse grand V, énormément d'acteurs se sont dit « moi aussi je vais inventer des ETF, moi aussi je vais en proposer ». Et c'est là où il y a une dérive vers des choses bien plus complexes. Donc on peut maintenant avoir des ETF qui jouent la thématique du cannabis. On a des ETF qui vous permettent d'investir dans une seule action, mais avec un effet de levier x3, x4. Et donc, comme vous venez de le dire, un instrument qui a été inventé au départ, pour simplifier la vie d'un investisseur peut-être moins sachant, aujourd'hui, l'offre est telle que avec autant d'arbres, on commence à ne plus voir la forêt.
Olivier Le Chevalier, pour terminer, on va dire un mot de la tech. On a passé la semaine à parler de Hong Kong et des performances extraordinaires de Tencent, d'Alibaba, de Baidu. On n'oublie pas un peu vite Taïwan?
Si, tout à fait. Une information qui était assez importante. Là, on voit bien que Taïwan est un peu le moteur de l'IA. Si Taïwan va bien, c'est-à-dire que tout le marché de la tech IA va bien aussi.
On le rappelle, il y a un état dans l'état qui s'appelle juste TSMC et qui est juste indispensable à toutes ces dynamiques de développement.
Ah oui, et qui a permis à faire 6,6% du PIB Taïwan grâce à TSMC, qui est Taiwan Semi Manufacturer Company. Du coup, effectivement, ce qu'on voit là actuellement sur ce sujet, ce qui est important, c'est que c'est vraiment la traduction de l'IA et des marchés. Donc, si on fait une corrélation, vous avez l'IA et les marchés Taïwan, et le cuivre qui va suivre derrière.
Ah aussi. Oui,
effectivement.
Il faut du cuivre pour tout ça.
Voilà, mais là, ce qui était la dernière particularité, c'est quand même que Pékin a dit ses industriels, en gros, arrêtez d'acheter de la puce Nvidia, on va revenir quand même.
On a ce qu'il faut à la maison.
On a ce qu'il faut à la maison, et donc il faut conserver ça. Ah. Donc, ce qui fait que d'un côté, on voit bien que là, pour les investisseurs, il va falloir aussi regarder la chaîne d'approvisionnement et plus uniquement dire je vais miser sur de la tech ou des grands ensembles, je dirais, au travers de tout
voilà,
ça.
Voilà, donc c'est finalement, c'est une forme de fragmentation un petit peu de cette dynamique de développement.
Là, je trouve que la politique s'en est bien mêlée pour aller redresser un peu cette information. Donc, c'est vrai que là, pour Nvidia, bon, on voit bien qu'il fait partie des 7 fantastiques. Globalement, les 7 fantastiques avaient bien remonté la pente là récemment, mais ce n'est pas grâce à Nvidia, hein, c'est grâce à d'autres. Et puis voilà, et puis de l'autre côté, vous assistez à la bataille sur le cuivre aussi, où effectivement, vous avez la difficulté, c'est que les teneurs en cuivre, pardon, ont été divisés par 4. Donc la teneur, c'est-à-dire la capacité à retourner une tonne de terre et à trouver de la teneur en cuivre dedans.
Tout bêtement, oui.
Et là, finalement, divisé par 4. Donc il faut faire beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'investissements. Personne ne veut ouvrir de mine. Donc en fait, effectivement, qu'est-ce qu'ils font maintenant? On le voit bien, là, les géants se regroupent, se rachètent, font du M&A entre eux pour pouvoir en fait apporter à la demande de cuivre les résultats. Mais on voit bien qu'en 2030, aujourd'hui, les mines de cuivre sont capables de répondre à 70% de la demande mondiale. Donc effectivement, il va y avoir un creux qu'il va falloir trouver et combler pour répondre à toute cette transition énergétique.
Ouais, et c'est peut-être du côté des mineurs qu'on va trouver,
les solutions pour combler ce... On est en train de se rapprocher. Quoi.
Voilà, non, il y a des grandes manœuvres.
Récemment, là.
Voilà. Ouais, effectivement. Merci beaucoup Olivier Le Chevalier de DeftEdge et Marc Templeman de CashBee. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer cette grosse et passionnante actualité économique du jour.